Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Combien y a-t-il eu d'œuvres cinématographiques véritablement et intégralement surréalistes ? Une seule, selon certains cinéphiles. Bousculer le conformisme, provoquer, vivre et montrer une poésie noire et souveraine mêlée à un humour barbare. Un film fou et rigoureux. Voici Tout un mardi du cinéma, diffusé pour la première fois sur France Culture le 3 septembre 1991, consacré à l'âge d'or.
Les mardis du cinéma présentent... L'âge d'or. Une émission de Noël Simsolo réalisée par Michel Prudhon.
Il faudra chercher un cataclysme déjà lointain pour trouver à quoi comparer les temps modernes. Il faudra sans doute se reporter à l'écroulement du monde ancien. La curiosité qui nous pousse vers ces époques de grands troubles, assez semblables, toute réserve faite, à celles où nous vivons, aimerait à retrouver de ce temps-là autre chose que l'histoire. Hélas, le christianisme a tout rempli de son ciel, où il n'y a rien que nous n'ayons déjà vu au plafond du ministère de l'Intérieur ou sur les rochers au bord de la mer. C'est pourquoi les traces authentiques laissées sur la rétine humaine par l'aiguille d'un grand sismographe mental revêtiront toujours, à moins de disparaître avec le reste dans l'anéantissement de la société capitaliste, une importance exceptionnelle pour ceux à qui il importe avant tout de déterminer le point critique où les simulacres prennent la place des réalités. Il y va de la volonté des hommes que le soleil se couche une fois pour toutes. Projeté à un moment où les banques sautent, où les révoltes éclatent, où les canons commencent à sortir de l'arsenal, l'âge d'or devrait être vu de tous ceux que n'inquiètent pas encore les nouvelles que la censure laisse imprimer dans les journaux. C'est un complément moral indispensable aux alarmes bourgeoises, dont l'effet sera très direct à cause de son caractère surréaliste. Il n'y a pas, en effet, d'affabulation dans la réalité. Les premières pierres se posent, les convenances prennent figure de dogme, les flics cognent comme il se fait tous les jours. Comme tous les jours aussi, différents accidents se produisent au sein même de la société bourgeoise, accueillis par la plus complète indifférence. Ces accidents à propos desquels on remarquera que, dans le film de Buñuel, ils apparaissent philosophiquement purs, affaiblissent la capacité de résistance d'une société en putréfaction, qui essaie de se survivre en utilisant les prêtres et les policiers comme seuls matériaux de soutien. Le pessimisme final, issu du sein même de la classe dirigeante par la désintégration de son optimisme, devient à son tour une puissante force de décomposition de cette classe, prend la valeur d'une négation en s'affirmant aussitôt dans l'action anti-religieuse, donc révolutionnaire, puisque la lutte contre la religion est aussi la lutte contre le monde. Le passage du pessimisme de l'État à l'action est déterminé par l'amour, principe du mal dans la démonologie bourgeoise, qui demande qu'on lui sacrifie tout, situation, famille, honneur, mais dont l'échec dans l'organisation sociale introduit le sentiment de révolte. Un processus semblable peut s'observer dans la vie et l'œuvre du marquis de Sade, contemporain de l'âge d'or de la monarchie absolue, interrompu par l'implacable répression physique et morale de la bourgeoisie triomphante. Ce n'est donc pas par hasard que le film Sacrilège de Buñuel est un écho des blasphèmes hurlés par le divin marquis à travers les grilles de ses prisons. Il reste évidemment à montrer le devenir de ce pessimisme dans la lutte et dans le triomphe du prolétariat qui est la décomposition de la société en tant que classe particulière. À l'époque de la prospérité, la valeur d'usage social de l'âge d'or doit s'établir par la satisfaction du besoin de destruction des opprimés et peut-être aussi par la flatterie des tendances masochistes des oppresseurs. En dépit de toutes les menaces d'étouffement, ce film servira très utilement, pensons-nous, à crever des cieux toujours moins beaux que ceux qu'il nous montre dans un miroir. Signé Maxime Alexandre, Aragon, André Breton, René Char, René Crevel, Salvador Dali, Paul Éluard, Benjamin Perret, Georges Sadoul, André Thirion, Tristan Tzara, Pierre Unique, Albert Valentin. 1930.
Et comme il faut.
Alors, L'Âge d'or, 1930, deuxième film de Louise Buñuel, le premier étant Le Chien Andalou, scénario de Salvador Dali, film considéré par beaucoup comme le seul film surréaliste, film considéré par d'autres comme le premier film vraiment où Buñuel exprime tout ce qui se passe par la suite et pas forcément surréaliste, et aujourd'hui un du cinéma un peu différent des autres car sous forme de débat et non pas sous forme d'interview séparée, peut-être parce que le film... On a tellement fait couler d'encre sur ce film sans l'avoir vu ou l'avoir vu dans la mémoire, dans le temps, vu qu'il n'est ressorti officiellement qu'il y a 10 ans, en 81, il a été interdit pendant 50 ans, qu'il était nécessaire de parler autrement de ce film. Devant moi, il y a Patrice Gauthier, Pierre-Henri Delot, Jean-Claude Biette, Michel Cazenave, qui, avec moi, vont parler de ce film. Et la première question que je voudrais poser, c'est une question à chacun de vous, c'est quand avez-vous vu L'Âge d'or pour la première fois? Quel impact ça a eu, quel effet, et à quelle époque ça s'est passé? Patrice Gauthier.
Je l'ai vu à la fin des années 50. Disons que je l'attendais, parce que j'entendais parler de ce film depuis longtemps. J'avais vu Los Olvidados à sa sortie, quand j'avais, je ne sais pas, 14-15 ans. Puis j'ai vu, bon, 4-5 ans après, peut-être, L'Âge d'or. Alors c'est comme toutes les œuvres fortes. Quand on a 20 ans et qu'on les attend, on trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je savais avant que j'allais voir un chef-d'œuvre, j'ai su après que c'était un chef-d'œuvre. Mais il y a des chefs-d'œuvre, disons, qui ne... des chefs-d'œuvre de mes 20 ans qui n'ont pas forcément tenu la route. Tandis que L'Âge d'or, quand je le vois 30 ans après, je continue à avoir le type d'émotion que j'avais ressenti.
En plus, vous l'avez vu à 20 ans, à l'époque où c'est les guerres coloniales en France, la quatrième république, tout un contexte qui forcément...
Oui, et puis un engagement politique.
Un engagement politique de votre part qui m'avait... Non. Puis Henri Delos.
Moi, j'ai vu dans les années 60, et je l'ai vu dans un même programme qui présentait d'abord Chien Andalou. Alors, celui-ci est arrivé après, il m'avait semblé beaucoup plus tenu et beaucoup plus solide, curieusement, que le Chien Andalou, qui dans un premier temps m'avait plus impressionné, puisque tout le monde se souvient de la première scène du Chien Andalou avec l'œil qu'on découpe, et qui évidemment traumatise tout le monde immédiatement, tandis que là, il n'y a pas d'image aussi terrifiante, a priori, dans l'âge d'or. Sauf qu'il m'avait semblé, si vous voulez, que la construction était déjà beaucoup plus achevée, paradoxalement, que dans un Chien Andalou. J'ai eu la sensation qu'un Chien Andalou relevait de ce que je pourrais appeler, j'allais dire, l'écriture automatique des rêves, puisque on sait que Dali avait beaucoup travaillé pour un Chien Andalou avec Buñuel, tandis qu'ici, au contraire, c'est totalement Buñuel qui, en pleine liberté, puisque le film était financé par les Noailles, a plutôt travaillé seul. C'est vrai d'ailleurs qu'après, Dali s'est éloigné de l'âge d'or, alors que un temps, il avait quasiment revendiqué la copaternité du film, puisqu'il a même signé ce texte que vous avez mis au début de votre émission avec le groupe des surréalistes. Or, peu de temps après, Dali s'éloignera des surréalistes qui plutôt vont le rejeter d'ailleurs. Et je m'aperçois que, si vous voulez, que c'est déjà l'un des plus grands films personnels de Buñuel. C'est déjà toute sa manière qui, a, pour moi, sera terminée par un triptyque de la manière surréaliste par L'Ange Exterminateur en 63. Mais ce film-là annonce déjà tout ce qu'on va retrouver dans la période française de Buñuel lorsqu'il fera des films produit par Silbermann, et c'était proprement renversant, parce que les images s'imprègnent et vous restent en mémoire les évêques, les églises représentées sur un rocher face à la mer, et qu'on va voir au fil du film se disloquer jusqu'à devenir des squelettes, sont des images qui sont restées longtemps dans la mémoire.
Jean-Claude Biette, vous qui êtes cinéaste, vous l'avez vu quand ?
Je l'ai vu une première fois vers 1960, et il ne m'a pas fait tant d'effet que ça, parce que j'avais eu un choc beaucoup plus grand un ou deux ans avant avec Terre sans pain. Et Terre sans pain est un film que je n'ai jamais oublié et qui m'a toujours paru plus beau que L'Âge d'or. Donc à cette époque-là, j'ai été un peu réticent sur les films surréalistes, sur les films, qui témoignaient d'une esthétique entre guillemets impure, qui venait de culture de peinture ou de littérature. Et je l'ai revu récemment, quand il est passé à la télévision en double programme avec Simon du désert. Et là, je l'ai vraiment redécouvert, et j'ai trouvé que c'était un film magnifique. Maintenant, peut-être que... on fait un parcours dans la vie, on découvre certaines choses en cinéma. Enfin, sur ces 30 années, j'ai découvert les autres films de Buñuel, et à ce moment-là, celui-ci me paraît beaucoup plus lumineux, et surtout, il me paraît fondateur de toute son œuvre.
Michel Cazenave.
Oui, écoutez, je vois qu'on l'a tous vu, le film à peu près dans les mêmes années, puisque moi aussi, c'était au tout début des années 60, et effectivement, moi aussi, au moment où c'était couplé avec Los Olvidados. Et très bizarrement, je connaissais pas du tout Buñuel. C'était le premier film que je voyais de Buñuel. J'avoue que j'en étais assez renversé, d'une part parce que j'étais moi-même, et depuis ma toute jeunesse, je dirais, entraîné à l'idéologie de l'amour fou. Que ce soit avec Tristan Huseux, avec Le Haut de Hurlevent, etc. Chose que j'ai retrouvé complètement dans Buñuel, d'une part. Et d'autre part, où j'étais dans une période d'un anti-christianisme, pour ne pas dire d'un anti-catholicisme militant. Et où tout à coup, là, j'avais l'impression de découvrir quelqu'un qui allait, à la limite, encore au-delà de ce que j'allais, de ce à quoi j'allais, mais où, et ça, je pense qu'il faudra l'introduire, je ressentais une profonde connivence du fait que Buñuel était un Espagnol et que je suis moi-même en partie d'origine espagnole. Je crois là quand même une dimension qui est tout à fait spécifique, et sans doute quelqu'un d'autre n'aurait pas fait le film de la même manière. Et ce que je veux dire, c'est que, curieusement, je sais que les gens qui ont vu généralement Los Olvidados et L'Âge d'or ensemble trouvaient que d'habitude que Los Olvidados était mieux construit. Alors moi, ma première réaction, c'était au contraire de trouver que l'âge d'or était beaucoup plus impressionnant et était beaucoup mieux construit que Los Olvidados. Dans la mesure où Los Olvidados me semblait, c'est vrai, de l'automatisme, mais je dirais de l'automatisme quand même très composé, d'une certaine façon.
Presque académique.
Oui, en fin de compte, si l'on peut dire, enfin, c'est là un peu vite. Alors que l'âge d'or me semblait en profondeur beaucoup plus relevé justement de l'irruption même de l'écriture automatique et donc de l'irruption même de l'inconscient. De ce point de vue-là, il est beaucoup plus dominé et je dirais, quant à l'impact psychologique qu'il peut produire, il me semble, en fin de compte, beaucoup plus profond.
Alors moi, puisque je joue le jeu, moi je l'ai découvert au début des années 60, voyage autostop Lille-Paris, projection cinémathèque française, très marqué par le surréalisme et une révolte personnelle. Et ça a été j'ai eu la chance, il y avait tellement de monde ce jour-là qu'Henri Langlois a fait deux projections en suivant. Si bien que j'ai eu peut-être une chance que je n'ai pas eue, c'est voir la première fois le film sous l'impact de violence et tant sonore que d'image que ça donnait, et le revoir tout de suite après, comme on voit un film deux fois en suivant, et le voir au niveau sur cette composition et tout. Et ce qui m'a beaucoup bouleversé et frappé dedans, c'est que, au départ, c'était évidemment à la première vision un film surréaliste pour moi. Et la deuxième vision, c'était plus seulement un film surréaliste. Je veux dire par là que c'était pas le côté impact, image du rêve, tous les thèmes des surréalistes que je connaissais par cœur. Il y avait autre chose, et je dirais presque une grâce sereine dans la violence. Et cette grâce sereine, cette distance dans la manière de montrer ce qui était agressif et provocateur, me troublait beaucoup plus au fond de moi-même que, disons, les images, comme disait Marie Delot, de l'œil crevé, du chien andalou, et des choses comme ça, par exemple. Je me souviens que l'image de la vache sur le lit, qui fait rire les gens comme un gag, me fascinait complètement, mais j'allais dire une sérénité presque brechtienne. C'est-à-dire, je trouvais que c'était une idée magique, simple, et qui expliquait tout ce qu'allait se passer. Et c'est pour ça que c'est un film, pour ça que je vous pose cette question, c'est un film dont on ne peut pas se débarrasser sur l'impact de la première vision. Le cas de Jean-Claude Biette est tout à fait clair, c'est un peu comme les rêves, donc on note, qu'on arrive à noter au réveil, et quand on les relit au matin, dans le soleil, on se réveille dans la nuit, on note le rêve, au matin, ça n'a plus aucun sens. Et puis 10 ans après, on retombe sur le cahier, on relit ces notes de rêve, et ça devient lumineux. C'est-à-dire que c'est un film qui fonctionne avec le temps et dans la mémoire très fort. Et à ce niveau-là, il y a un problème, c'est qu'en fait, on a tellement dit que c'était un film surréaliste, que l'on a dit les thèmes du surréalisme par rapport au film, l'amour fou, tout ça et tout, mais quel est le vrai thème du film? Et aujourd'hui, puisque nous sommes pour en débattre, pour vous, quel est le vrai thème de l'amour fou? Qu'il y a, de l'amour fou, lapsus intéressant, vous voyez, on est marqué. Quel est le vrai thème de l'âge d'or, en fait? Est-ce que c'est que l'amour fou? Est-ce que c'est que la révolte? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Michel Cazenave.
Ah, ça, là-dessus, là, j'ai une opinion très, très précise, mais en même temps très personnelle, et donc qui peut être largement discutée, c'est que c'est effectivement d'abord et avant tout l'amour fou. L'amour fou, mais en même temps avec ce que cela entraîne avec soi. Je faisais allusion tout à l'heure à Tristan et Iseu. Ce n'est pas uniquement par histoire personnelle, mais c'est aussi parce que chez Buñuel, on sait à quel point Tristan et Iseu jouent. Il suffit de se rappeler la fin de Abismos des Passions, par exemple.
Et puis c'est un des thèmes qu'on entend dans ce film-là.
J'allais y venir, et dans l'âge d'or, effectivement, ça occupe une certaine place. Et de ce point de vue-là, ça me semble quand même largement au-delà du surréalisme, même si c'est dans le surréalisme, mais faisant appel, je dirais, à tout ce qui est, en fin de compte, l'idéologie qui a été refoulée dans toute la civilisation occidentale, qui prend naissance effectivement au début du XIIe siècle, qui a été immédiatement arrêtée, qui a été transcendée dans cette espèce d'idéologie absolument ridicule de l'amour courtois, et dont on a vu qu'elle faisait retour régulièrement à travers notre histoire, et dernière en date, le surréalisme. Et si je dis, c'est pour moi l'ancrage c'est vraiment l'amour fou, c'est parce que l'amour fou, si on le comprend véritablement, et même dans son premier archétype, donc dans Tristan et Iseu, et tel qu'il est repris par Buñuel, c'est que par là même, l'amour fou veut dire la remise en cause de toute société, quelle qu'elle soit, dans lequel il s'inscrit, et en même temps, cela veut dire la révolte contre le destin, et contre la condition d'homme telle qu'elle nous est faite dans le monde où nous vivons. Donc il me semble que le reste, en quelque sorte, s'agrège et trouve son sens autour de ce thème de l'amour fou.
Mais là, peut-être que l'amour fou, quand on revoit le film, qu'on y repense, n'est pas aussi donné de manière théorique et dogmatique que dans les textes des surréalistes que nous connaissons. Peut-être dans leur poésie, c'est donné, mais il y a tellement de textes dogmatiques...
Vous savez, alors là, je vais peut-être vous faire hurler, mais je vous dirais que souvent, je trouve que les surréalistes parlent mal de l'amour fou. Parce que justement, ils en parlent de manière trop, trop abstraite, à la limite. Et là où je trouve ça absolument génial dans l'âge d'or, c'est qu'on ne nous en parle pas, on le voit.
Là, je vois Patrice Gauthier qui prend un rasoir, je ne sais pas, de l'œil qui veut couper si c'est le vôtre, est-ce qu'il est d'accord?
En partie, d'accord. Tout de même, j'ai du mal à déterminer si surréaliste ou non, puisque c'est quelque chose qui est inscrit à un moment précis, dans un mouvement précis. C'est-à-dire, les signatures du texte qui ouvre l'émission le montrent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le film a été pris, intégré, reçu et recoupe des données venant d'autres personnes, ben, simplement, il y a en plus de comme pour tout surréaliste, il y a en plus du fait que la personne est surréaliste, il est aussi un artiste unique. Donc Buñuel est un artiste unique, et il est aussi espagnol, on l'a déjà dit, par rapport aux Français qui sont dans l'ensemble plus littéraires. Et puisque c'est avant tout poète, théoricien, etc. Enfin, je suis simpliste en donnant des catégories. Mais enfin, il est évident qu'il amène un autre type de dimension. Mais pour moi, enfin, je l'ai reçu, je le reçois vraiment comme un film surréaliste. Parce que intégralement. Je ne dirais pas que. Enfin, L'amour fou, c'est vrai que c'est. Mais je trouve que la partie, disons, social, je crois que c'est des choses sur lesquelles on reviendra, mais enfin aussi de ce que ressentait toute une génération à la sortie de la boucherie de 14, ça rejoint tout un climat pacifiste, révolutionnaire qu'on retrouve dans des quantités d'œuvres. Je pense au même moment un film que j'aime énormément qui est No Man's Land de Trivas, où quatre personnes de quatre camps différents se retrouvent dans un trou, donc dans une situation aussi un petit peu théâtrale, irréaliste, et partent à la fin et déclarent la guerre à la guerre. Ah ben, il y avait tout un courant très lyrique, très fort, que je trouve très, très puissant, et se trouve dans des quantités d'œuvres plastiques et poétiques de l'époque, et je trouve que L'âge d'or, de ce point de vue, en fait partie, quoi. Parce que intégrante.
Buñuel, lui, disait qu'il aimait bien les surréalismes, mais il ne se considérait pas comme un surréaliste à l'époque. Il avait été très étonné de la réflexion de Epstein, qui lui avait demandé d'être l'assistant de Gans pour quelques essais à faire pendant qu'il tournait la chute de la maison Huchère. Et Buñuel avait répondu « Je déteste ce que fait Gans, j'ai rien à faire avec ce type-là, pas question. » Et Epstein lui avait répondu « Comment un petit con comme vous peut se permettre de juger un grand metteur en scène ?» Puis après, Epstein l'avait pris dans sa voiture pour le conduire et lui avait seulement dit, avant de le déposer, « Monsieur Buñuel, fréquentez-moi les surréalistes, ils vous feront du tort. » Ce qui est assez intéressant à voir, parce qu'en effet, je crois qu'il y a le surréalisme dans le film, bien entendu, mais il y a aussi, comme disait Bernard Delot, tout Buñuel qui n'est pas que surréaliste et qui a un sens du rituel, de l'humour, et en même temps, j'allais dire, de la tendresse de la violence, qui n'est pas dans tous les textes surréalistes, Jean-Claude Biette.
Mais c'est-à-dire qu'il y a une chose qui traduit ce que vous disiez sur l'impression de sérénité. C'est une chose, je m'étonne je crois qu'on n'a rien écrit là-dessus, c'est qu'en fait, je trouve que Buñuel, c'est l'inventeur du documentaire. Et c'est l'inventeur du documentaire dans une sorte de tradition idéale qui a été reprise après par Franju. Et je pense que la force des images des archevêques sur les rochers ou des scorpions, pardon,
les Mallorquins.
Mais non, les Mallorquins.
Les Mallorquins arrivent après sur les rochers aussi. Je veux dire,
oui, les Mallorquins sont dans la cabane, là, oui. Où on voit Max Ernst. C'est d'abord son génie de cinéaste documentaire. Et c'est une chose que les cinéastes, au moins en France, se posaient assez peu, d'arriver à cette nudité documentaire. Alors. Bon, je ne sais pas quel est le lien qu'on peut faire avec le surréalisme, n'étant pas de culture surréaliste, mais je sens qu'il y a là quelque chose dans le rapport entre la réalité et le rêve de la réalité. Voilà. Et c'est une ligne de force dans les films de Buñuel qui ne s'est jamais démentie jusqu'à la fin.
Ben sur le documentaire, les surréalistes admirent énormément les documentaires d'opérations chirurgicales et de choses comme ça. Et le début de l'âge d'or, d'ailleurs, commence par un documentaire
avec
sur les scorpions.
Un commentaire, hein,
oui, et pas levé et lié aux surréalistes.
Et pas levé et lié aux surréalistes. Pierre Delot va intervenir.
Non, moi, ce que je veux dire, c'est que Buñuel a trouvé dans le cadre du surréalisme précisément un cadre. Je veux dire qu'il a dit longtemps après qu'avec les surréalistes, il avait pu me découvrir sa manière, son style, si vous voulez, dans la mesure où les surréalistes lui avaient fait comprendre que l'homme n'est pas libre. Et Buñuel croyait que l'homme, l'artiste, peuvent être libres. Et les surréalistes, au moins, lui ont fait comprendre, grâce précisément à la lecture psychanalytique qu'ils avaient commencé d'entreprendre des chefs-d'œuvre du passé, grâce au fait qu'ils commençaient à vouloir décrypter, et Dieu sait si l'influence de Freud et de la psychanalyse sur les surréalistes n'a été importante, lui ont fait comprendre que ce qu'ils croyaient être une liberté n'était jamais qu'une revendication commandée par le manque de liberté au départ. Donc à partir de ce moment-là, tout le génie de Buñuel aura été de glisser sur, d'une part, une contestation du monde qui existait, à partir du moment où il avait lui-même pris conscience que la façon qu'il contestait était automatiquement inscrite d'ores et déjà par sa liberté entravée. Et ce qu'il y a de formidable, c'est cette ironie constante qui va se développer et qu'on voit sourdre ici et naître dans l'âge d'or. C'est bien pour ça qu'il y a un progrès formidable par rapport à Un chien andalou. Et Buñuel, à partir de ce moment, trouve son style. Parce que regardez, si vous analysez la succession des images de l'âge d'or, elle est ni plus ni moins fluide que dans le fantôme de la liberté qu'il fait 40 ans plus tard, ou dans précisément Un ange exterminateur, qui est plus essentiellement un huis clos surréaliste ou apparenté comme tel. Mais il vient de trouver son style, parce qu'au fond, ce sont les surréalistes qui lui ont donné la méthode de réflexion artistique qui va être la sienne une fois pour toutes. Sauf évidemment dans quelques films commerciaux où il ne pourra qu'un coup de temps en temps introduire des incidences.
C'est tellement vrai que quand il parle, lui, Buñuel, dans Mon dernier soupir, recueilli dans une carrière, du chien andalou par rapport à l'âge d'or, il signale que dans l'âge d'or, il y a les gratuités qui étaient les fantasmes de Dali. Et que le problème qu'avec Dali...
Dans Un chien andalou, plutôt.
Oui, dans Un chien andalou, oui, pardon. Et dans Un chien andalou, ce qui se passait, c'est que juste après Un chien andalou, il y a eu la préparation de l'âge d'or à Figueras, près de Cadaqués, où il y a eu des problèmes, dit-il, à cause de la fascination de Dali sur Gala, que lui détestait, la femme des lumières, mais qui montre déjà la distance. Et on voit, en effet, qu'il... Je dirais pas qu'il éjecte, mais qu'il met en tapisserie plus lointaine les gags, objets insolites, les éléments comme ça que Dali implique dans le scénario de base, alors que dans Le chien andalou, ils sont en avant. C'est les deux curés avec les ânes morts. C'est un tas de choses qui est le gag pour le gag. Alors que ici, les gags sont toujours beaucoup plus clairs. Je pense à l'encensoir, on ouvre la porte du taxi, l'encensoir qui descend. Je pense également au type qui shoot dans un violon et qui finit par le casser. Tout cela est impliqué dans une musicalité générale du sujet, alors que Le chien andalou, en effet, est fait en écriture automatique, comme vous disiez, Mariolo, mais d'une manière choc pour choc. C'est ouais. Superbe. Mais on voit que Dali a beaucoup plus imposé, j'allais dire, son storyboard, comme on dit maintenant, dans Le chien andalou, que l'âge d'or, qui est plutôt le rêve de Buñuel sur le scénario fait entre Dali et lui, alors que Le chien andalou, c'est l'illustration d'un oui. scénario fait par les deux.
Absolument. Moi, je dirais que Buñuel, à partir de l'âge d'or, introduit déjà ce qui va être ce qui va caractériser son style, c'est-à-dire la fluidité. La fluidité de la pensée, formidablement intelligente et toujours récurrente. Et tandis que c'est une succession de plans, j'allais dire quelquefois dans Un chien andalou, qui sont quelquefois faits, peut-on penser, pour provoquer ou pour choquer. Là, non, il n'y a plus la volonté de choquer, c'est l'ensemble du film qui devient choquant. C'est toute la différence, comme on va le voir arriver dans les films dits classiques qui racontent soi-disant des histoires, qui est Le fantôme de la liberté, etc., ultérieurement, mais il vient de l'inventer là, dans l'âge d'or. Pour moi, c'est évident.
On a trouvé un document à l'INA ici, c'est un interview de Gaston Modot, l'acteur principal de l'âge d'or, qui en parle, et je vous propose de l'écouter.
Gaston Modot a été intimement lié au mouvement surréaliste cinématographique. Qu'est-ce qui s'est passé? Car le scénario de Buñuel n'était pas si facile que ça. Et alors on peut se demander si les comédiens et ceux qui y participaient ont toujours bien compris le sens de ce qu'ils interprétaient. Car cet appel à l'anarchie qui était contenu oui. dans le L'âge d'or, est-ce que le Buñuel vous a fait prendre contact, un avant-contact
oui,
avec
oui,
le scénario?
Certainement, c'est la première chose qu'il a faite. Il ne m'a pas soumis un scénario comme ça, comme on le fait habituellement, qui est une histoire découpée en petits morceaux et qu'on va tourner suivant des numéros bien organisés. Nous avons eu une entrevue assez longue et il m'a lu son scénario plutôt comme une profession de foi, n'est-ce pas, que comme une pièce de théâtre, si vous voulez. À ce moment-là, nous sommes mis d'accord, nous avons tourné le film en partie.
Et le film était subventionné par un mécène, je pense. Ça n'a pas été un film fait dans une production normale.
Ça n'est pas une question de producteur. Bon, d'ailleurs, il était l'ennemi des producteurs à ce moment-là. C'est un mécène, en effet, qui a subventionné le film.
C'est Comte de Noailles,
je crois.
Et alors, où avez-vous tourné ce film?
Eh bien, voilà, nous avons tourné surtout la première partie. Vous vous souvenez où on voit les évêques dans les rochers,
oui,
et plus tard, après, on voit les
pas...
squelettes, ce sont les squelettes d'évêques.
Les fameux majorquins.
Les majorquins, c'est ça, exactement. Et nous avons tourné ça à Cadaqués, qui est au bord de la mer, dans un petit village au nord de Barcelone. Et voisin encore de ce village, il y a un autre village assez connu, d'ailleurs, qui s'appelle Figueras. C'est Figueras, je crois, je ne suis pas très sûr, je crois que Dali est né à Figueras, je crois. Toujours est-il que Buñuel et Dali ont passé de nombreuses années de leur adolescence et de leur jeunesse à Figueras. Il est certain qu'à ce moment-là, déjà, ils commençaient à mettre au point, je ne dirais pas ce scénario, mais enfin à en parler, parce qu'il y avait une manière d'obsession qui les poussait à revenir toujours à la plage de Cadaqués, qui est faite de rochers déchiquetés, tourmentés, des rochers blanchâtres. Vous voyez comme il y en a un peu du côté de Cassis, là-bas, ou dans les Madragues, aux environs de Marseille.
Oui, oui.
Et la fameuse scène des évêques, n'est-ce pas, qu'ils avaient déjà dans l'idée depuis longtemps, comme une sorte de hantise, ils n'imaginaient pas que ça puisse être tourné ailleurs qu'à Cadaqués. Et nous sommes partis là, une troupe d'ailleurs assez nombreuse.
Et vous êtes resté longtemps?
C'était peut-être une quinzaine de jours, là, dans un petit village de pêcheurs qui est ravissant, c'est dans le genre de Cassis, ça rappelle beaucoup Cassis. Et nous avons tourné là les premières parties, la première partie du film, l'histoire des bandits aussi, le scandale sur la plage, vous savez.
Et est-ce que les habitants étaient étonnés de ce déploiement? Est-ce qu'il y a eu des réactions?
Pas du tout, aucune, non. Des gens très, très simples, très frustes, ça les étonnait pas. Et après, ma foi, nous avons tourné aussi au Billancourt, comme tout le monde, dans des décors comme tout le monde.
Et dans les rues aussi.
Dans les rues de Paris, oui, j'ai fait des scènes dans les rues de Paris, notamment le trajet où les policiers emmènent le personnage et où l'on rencontre des affiches, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Oui, oui.
Des affiches d'ailleurs qui l'obsèdent, parce que le film, somme toute, c'est un peu le... comment dirais-je, la mise en valeur de l'instinct sexuel et de l'instinct de mort.
Et alors justement, la partie sexuelle est très importante, et les symboles sexuels sont assez évidents, et d'autre part, il y a une sensualité qui se dégage de l'ador, qui est extraordinaire, et vous aviez une partenaire, une femme qui s'appelle Yalis. Et alors, est-ce qu'elle aussi était, consentante? Est-ce qu'elle comprenait ce qu'elle faisait?
Bah, mon Dieu, je ne crois pas qu'elle le comprenait comme ça l'aurait mérité d'être compris. Elle était assez froide, enfin. C'était une actrice, comme ça, assez moyenne, et qui ne se mettait pas, comme on dit, dans la peau du rôle.
Et est-ce qu'il y a eu certaines scènes difficiles à réaliser, difficiles à tourner?
Pas spécialement, non. Mais vous savez, avec un homme comme Buñuel, n'est-ce pas, il est plutôt guidé par son rêve intérieur, n'est-ce pas, ou la chose qu'il tente à exprimer, plutôt que par une technique ou chercher une perfection de mise en scène ou d'angle de prise de vue ou d'éclairage. Tout ça, il s'en souciait fort peu. Les personnages étaient en place et la mise en scène, pour ainsi dire, s'organisait tout seul, n'est-ce pas.
Alors, le film est sorti, il est sorti normalement pendant près de 3 semaines, et puis brusquement est arrivée cette fameuse soirée.
Même pas si ça a duré 3 semaines.
Ça a duré assez longtemps, je crois. C'est au début de décembre.
Oui, peut-être. Moi, je voyais ça une quinzaine de jours.
Je crois que c'est vers le début novembre que le film est sorti. Et puis,
oui.
Il y a eu d'abord, on a demandé le retrait de 2 scènes. Celle où le Christ, enfin, dit monsieur de, n'était autre que Jésus-Christ. Dans la fameuse scène de la réception, je crois.
Non, pas
de l'entrée au château, de l'arrivée
la
des
invités. L'arrivée des château de Blangis.
C'est ça,
Château de Blangis, c'est l'allusion au marquis de Sade.
C'est ça.
C'est ça.
Et est-ce que...
Est-ce qu'on n'a pas voulu aussi supprimer la scène où l'automobile s'arrête, où on sort un ostensoir?
Je crois que ça aussi. Il y a eu ces 2 scènes-là, puis après, il y a eu cette fameuse manifestation. Ouais. Étiez-vous à la manifestation? Encre violette sur l'écran, non, et lacération des tableaux.
Non, je n'étais pas là. Je suis venu le lendemain voir les dégâts. J'ai vu l'étoile lacérée, l'étoile de Dali, de Tanguy, de Miro, enfin tous les peintres surréalistes de l'époque.
Et est-ce que vous aviez été alerté le soir de la manifestation ?
Oh, ma foi, non. D'ailleurs, ça s'est passé comme ça assez très tard. On m'aurait alerté, n'est-ce pas ? Il valait mieux alerter les pompiers, je crois.
Et est-ce que vous pouvez... À quoi attribuez-vous cette manifestation stupide ?
Oh, des petites choses politiques, n'est-ce pas ? Et puis, on a attaqué indirectement le mécène, n'est-ce pas, qui avait commandité le film. Et puis, on a vu les choses superficielles, n'est-ce pas, scandaleuses, n'est-ce pas, de même qu'on déchire hein, des livres ou qu'on les brûle, eh bien, on a voulu faire une manifestation de cet ordre d'idées-là.
Et pas. Le film a été interdit.
Interdit, bien entendu, et ma foi, ça ne l'empêche pas de bien se porter encore.
L'Assemblée internationale de bienfaisance qui s'ouvre aujourd'hui vous nomme son haut délégué pour cette nouvelle mission. Et par ce document, s'accrédite la haute confiance que nous, représentants de la patrie, nous vous accordons. Nous espérons tous que vous vous rendrez dignes de cette confiance pour que vous puissiez mener à bien la haute mission de bienfaisance qu'on vous a confiée. Seulement de votre haut esprit de sacrifice, de votre valeur éprouvée, dépend la vie de centaines d'enfants, de femmes.
La vie de centaines d'enfants, de femmes et de vieillards, et ainsi resteront exaltés notre honneur et celui de la patrie engagée dans une si haute et bienfaisante entreprise. Taxi!
Alors là, le petit extrait qu'on a entendu, c'est Gaston Modo qui en a assez d'être emmené avec les... Comment on appelait ça là, c'est pas des menottes, ça a un nom, enfin, accroché par les deux flics, parce qu'il avait fait l'amour avec une dame sur l'inauguration de la Rome éternelle, et qui dit, vous savez pas qui je suis, et on apprend qu'il est donc pour la bienfaisance. Et à partir de là, toute sa révolte, toute sa violence prend un autre sens pour le spectateur, et tout le film va aller dans ce sens-là. Alors, on a parlé un peu du surréalisme, mais au-delà du surréalisme, qui inclut les données dont je vais parler dans sa thématique et dans sa vie même, dans sa respiration, c'est quand même un film qui est fait sur la révolte d'une part, et je dirais la révolte anarchique. C'est l'anarchie. Je pense que nous sommes quand même tous d'accord là-dessus, Pierre Delot.
Moi, je dirais que c'est d'abord un film qui prône une liberté totale de l'individu, et à partir du moment où cette liberté est censée devoir être totale, elle ne peut pas s'inscrire dans un système social, quel qu'il soit. Et la société, évidemment, avec tous les tabous qu'elle peut avoir, surtout à cette époque-là encore, avec ce qu'elle chante comme étant les vertus patriotiques par excellence, puisqu'on sort encore une fois de la guerre, de la grande guerre, la première, guerre 14-18, est profondément puritaine, profondément gendarmiste, et en même temps court hypocritement après tous les plaisirs, parce qu'on s'ennuie dans cette France-là tous les plaisirs. Donc Buñuel, là-dessus, ne peut pas ne pas marquer ça, ne peut pas se fiche de ces gens-là, qui hypocritement... sont soi-disant charitables, vont rebâtir un monde nouveau et pensent qu'il n'y aura jamais plus de guerre. Il sait que c'est profondément pas vrai et il essaie de montrer un personnage qui prend conscience de ça et qui, à partir de là, inscrit toute l'histoire du film et les rêves et les images que Buñuel va y mettre. Mais évidemment, au passage, il ne peut pas s'empêcher, et c'est assez logique, j'allais dire, de donner un coup de griffe, un coup de patte. Encore que c'est pas de la provocation, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le cheminement d'une conscience qui essaie précisément de se libérer de toutes les entraves. Donc c'est un film d'abord et avant tout, comme tous les films de Buñuel, profondément anarchiste, incatalogable.
Oui, surtout que c'est l'époque où vous disiez, on est encore très proche de la chambre bleu horizon. Hein, les anciens combattants sont salués dans la rue avec des drapeaux et leurs femmes sont dames poitronnesses pour aider au massacre de la guerre. Et seulement dans la violence du personnage de Gaston Modo, c'est une vocation totale. Il donne à couper un chien. Bon, à la limite, on peut ne pas aimer les chiens. Il écrase un cancrelat.
Là encore, ça va. Seulement, le moment où on a coupé le petit extrait, il appelle un taxi, il voit un aveugle qui veut traverser, il arrive, il lui fout un grand coup de tatane dans la figure. Et par la suite, il va sans arrêt faire ça. On lui offre un verre quelque part dans une grande réception, la mère de la femme qu'il aime, le verre se renverse sur sa main, il fout une gifle à la femme. On a, et ça ira de plus en plus loin, on a non seulement la haine des tabous, mais en même temps le jeu de massacre des tabous. Et qui dit jeu de massacre, dit avec un certain humour. Et en même temps, je voudrais, juste avant de donner la parole à un autre de vous, rappeler une séquence qui me... Enfin, deux séquences côte à côte qui sont extrêmement importantes. C'est que quand Gaston Modo donne une gifle à cette femme parce qu'elle a renversé un peu de la liqueur de Porto sur sa main, tout le monde est offusqué. C'est vraiment un crime contre l'humanité. Et quelques minutes avant, il y avait le garde-chasse qui se roulait une cigarette. Son fils avait fait tomber le tabac de la cigarette. Et calmement, le garde-chasse l'avait regardé, puis voyant le fils le narguer, il l'avait tué. Et les gens avaient dit, écoutez, c'est pas bien de l'avoir tué, on devine ça dans la pantomime. Ah, mais écoutez, il a mis la cigarette, et les gens regardent, et c'est pas grave. Mais qu'à côté de ça, c'est très très grave, dans le milieu bourgeois, de gifler la dame de maison. Et cette espèce de rencontre d'éléments, qui est extrêmement pensée, et qui est pas du tout là le choc d'images crues et provocatrices, comme dans le Chien d'Alou, montre en effet que l'anarchie, oui, mais pas l'anarchie, sans pensée idéologique précise. La révolte, pas gratuite. La révolte avec quand même un souhait. Jean-Claude Biette.
Oui, d'ailleurs, je pense à un détail là-dedans. C'est l'expression du petit garçon quand il nargue son père garde-chasse. Il, à ce moment-là, c'est lui qui porte l'anarchie. Il a une manière de narguer le type avec son fusil, qui est une vraie révolte, qui est pas un truc, qui est pas une gaminerie d'enfant, qui est une vraie révolte. Donc, je pense que l'anarchie, elle passe à travers le film, à travers plusieurs personnages. Principalement à travers le personnage de Gaston Modo, mais elle est tout de même répartie...
Elle est relayée.
Elle est relayée, voilà.
Patrice Cottier.
Oui, indépendamment même du fil anarchiste, je vois aussi toute une... Alors là, une tradition qui est bien ancrée quand même, qui est le refus des valeurs mièvres, enfin, de toutes les choses tout à fait... Enfin, que Buñuel, dans toute son œuvre, va avoir. C'est-à-dire que il y a tout ce qui est sentimental, le dérange, enfin, le retourne, il y a des éléments comme ça. Ça vient vivant, même en référence ironique, dans toute son œuvre, y compris dans celui où l'on se fait donner la fessée, là, où c'en est. Bon. Donc, il y a le refus, je crois, de toutes ces choses, et qui vient de loin, enfin, qui vient de... Bon, je pense au poème de Baudelaire, « Écrasons les pauvres », ou des choses de ce genre. C'est-à-dire que c'est quelque chose, quand même, qui... dit, bon, si avec les romantiques, il y a une autonomie de l'artiste par rapport à la société, en opposition au siècle qui précède, elle vient de là. C'est-à-dire qu'il y a... C'est vraiment, je crois, le prolongement de toute une poésie, toute une révolte. Vigo est à peu près des mêmes années. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a quand
c'est même pas le surréalisme qui va donner ça. C'est bien.
Oui, mais c'est quelque chose qui vient de loin. Oui.
Il faut quand même. Je
crois que le surréalisme aussi a ses sources. Je veux dire, c'est pas non plus.
Oui. Enfin, bon. Mais les deux cinéastes qu'il admirait énormément, contrairement à ce qu'on a dit, c'était pas du tout Chaplin, les gens comme ça. C'était Eisenstein sur la musique d'image qui exprimait des idées avec lesquelles il était en accord. Surtout quand c'est Potemkin, qui est peut-être le film le plus révolté d'Eisenstein, et surtout Fritz Lang, qu'il admirait totalement, considérant que c'était l'appel à l'inconscient en permanence dans le côté implacable du destin, mais pas du destin au sens romanesque, si bien romanesque pas romantique, romanesque du terme. Et lui-même n'était pas d'une famille pauvre, mais il avait toujours été très intéressé par ça. Et quand on voit ce qu'il pouvait être l'Espagne, de la jeunesse de Buñuel, il nous a fait un écho de ça dans Tristana, on voit très très bien que c'était une prise de conscience. Et en fait, est-ce qu'on peut pas dire que la révolte et l'anarchie chez Buñuel, c'est un choix d'honnêteté de conscience et non pas uniquement un choix de provocation, Michel Cazenave?
Oui, mais alors là, c'est là justement que moi j'aimerais réintroduire cette dimension spécifiquement espagnole de Buñuel. Dans la mesure où on disait tout à l'heure, c'était dans la France de 1930, oui, c'était aussi Buñuel quand même par rapport à l'Espagne, dans laquelle il avait été élevé, qu'il avait connu, dont il faut dire que c'était un mélange, en gros, de 19e siècle et de fin du Moyen-Âge.
Totalement.
C'est à peu près comme ça qu'on pouvait le définir, et il suffit de se rappeler la manière, par exemple, dont il nous montre la sourde à Sauter sans pain, qui correspond quand même à tout un certain nombre de réalités qui étaient celles de l'Espagne de l'époque. Et devant laquelle, tout de même, il y a eu aussi, je dirais, il y a toute une tradition espagnole qu'il ne faut pas oublier. Une tradition espagnole qui est celle de la révolte personnelle et de la communion de la personne, quelle qu'elle soit, avec son absolu, quel que soit cet absolu par ailleurs. Je veux dire, l'Espagne est quand même, par exemple, et j'y reviendrai tout à l'heure certainement, le seul pays dans lequel tous les grands mystiques, pratiquement, sont tous passés dans l'Inquisition. Parce que, justement, il y avait refus de l'institution ecclésiale en tant que telle et relation directe avec le dieu dans lequel il croyait. Ce qui explique en même temps toute la tradition anarchiste qui, je pense que l'Espagne est le seul pays avec la Russie qui ait une telle tradition anarchiste et aussi fortement ancrée dans l'ensemble du peuple. Et dans lequel c'était pas, je dirais, l'anarchisme intellectuel que l'on connaissait en Allemagne ou en France. C'était l'anarchisme direct, violent, et profondément irrationnel.
Et fier.
Ah bah oui, non, mais ça, très évidemment. Ah oui, mais ça, alors là, vous savez, c'est le mot espagnol, la honra, l'honneur. Bon, et on sait ce que ça veut dire. Et c'est pas l'honneur au sens de la vertu bourgeoise. C'est vraiment l'honneur d'être un homme et de défendre cette dignité d'homme, quoi qu'il arrive, et au prix de sa vie, s'il le faut. Vous savez, ça me fait penser à un mot d'André Malraux qui disait que lorsqu'on se trouve devant un grand chef-d'œuvre irrationnel, on est sûr qu'il est ou russe ou espagnol. Je pense que c'est pas si faux. Effectivement, nous ne sommes pas très doués pour ça. Et s'il y a un film comme L'Âge d'or, je crois qu'il fallait que ça soit un Espagnol, effectivement, qu'il fasse. Et je dis bien un Espagnol, pas un Catalan. Pas un Catalan comme Dali. Absolument. Parce que là, on est dans le gag, on est effectivement dans la chose fabriquée, dans la folie douce, etc. Avec Buñuel, nous sommes dans le blasphème, nous sommes dans le sacrilège. Ce qui veut dire en même temps la destruction, et la destruction absolument radicale, dans toute valeur de sacralité, quelle qu'elle soit, de tout ce que la société peut nous offrir comme cadre et comme structure. Et là, il y a une révolte qui va, je dirais finalement, encore plus loin, on parlait tout à l'heure du surréalisme, bien sûr inscrit ou tangent, plus exactement, au surréalisme, mais qui va plus loin que le surréalisme. C'est quasiment, si j'ose me servir de ce mot, je pense que Buñuel ne l'aurait pas aimé, mais moi je vais m'en servir quand même, il y a effectivement quelque chose de profondément métaphysique, qui est la liberté de l'homme, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, et devant quelque état que ce soit.
Et on peut dire aussi conscience politique, parce que 1930, c'est moi la République, et là, en Espagne, pas pour longtemps, et en Catalogne surtout, et elle pose problème, parce qu'en fait, la République anarchiste de Catalogne a été imposée à des gens qui n'étaient pas dans cette idée-là, ce qui a permis, en 35-36, histoire du Poum et tout ça. Et on a toujours la tendance de penser que la Catalogne, c'était le grand ferment anarchiste des individus, mais pas au niveau de l'ensemble des gens. Et cette espèce de manière qui est très entomologiste, parce qu'on sait l'amour des animaux et de l'entomologie qu'a Buñuel, est extrêmement visible là-dessus. Et comme entomologie, on sait également qu'un exemple, pour bien le cerner et l'analyser, on doit le décaler dans un autre contexte, ou dans un autre milieu, un autre support. Et là, sur l'anticléricalisme, alors que le pays le plus clérical, c'est l'Espagne, de l'époque, avec des anticléricalistes bien sûr, mais le plus clérical, c'est l'Espagne, lui, son film, il le place dans la symbolique cléricale, et non pas dans la réalité cléricale. Pour donner cette réalité, il le place à Rome. Tout le film se passe à Rome. On a construit Rome, et en fait, ce qu'il décrit, c'est Rome. C'est censé se passer à Rome, l'histoire de l'âge d'or. Et non pas en Espagne. Alors qu'il a pourtant bien placé Cadaqués et tout ça au début, où on construit la première pierre de Rome. Et cette idée de décalage, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans toute l'œuvre de Buñuel, tant dans le style que le son, tant dans l'image. C'est cette idée de décaler pour créer une légère distance et taper plus fort et plus juste. Le refus absolument du naturalisme ou de l'exemple illustratif.
Oui, mais en même temps, je trouve que ça va... Oui, vous avez tout à fait raison. Mais quand vous dites que c'est Rome, c'est la Rome impériale. Le scénario le porte bien tout le temps, c'est la Rome impériale. Hein, c'est pas Rome, simplement.
Oui, mais en costume d'aujourd'hui, donc décalage supplémentaire, bien sûr.
Avec tout ce que ça veut dire et toutes les connotations diverses, d'ailleurs, à travers les époques.
La marche sur Rome est 8 ans avant, hein, je veux dire.
Oui, non, mais il y a aussi des raisons politiques.
Il ne faut pas l'oublier. Et la Rome impériale, on sait que c'est le grand thème fasciste, à l'époque.
Oui, le grand thème fasciste également. Mais également clérical.
Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était l'aspect documentaire. Je pense que si ça commence par un documentaire, L'Âge d'or, ce n'est pas pour rien. C'est que du coup, tout le film, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vu à l'époque, c'est que tout le film est vu comme un documentaire. C'est-à-dire un simple constat de réalité.
Michaka, il y a d'autres plans documentaires qui arrivent. À un moment, il dit, qu'est-ce que vous avez fait? On voit les émeutes à Rome, en Allemagne. Et alors, sur le style même du film, il y a des choses très fortes. Par exemple, on voit un personnage shooté dans un violon et l'écraser. Bon, ça fait gag. Et puis, à peu près 20 minutes après dans le film, il y a un petit prêtre qui est tout le temps là et qui court sans arrêt sur un pont et tout, et on le retrouve dans l'orchestre en train de jouer du violon. Donc, la construction du film fait que une idée de gag devient une idée dialectique. Et tout le film est fait comme ça. Soit Pierre-Henri Delot qui piaille parce qu'il veut intervenir.
Non. Je voulais simplement préciser que pour moi, cet irrationalisme-là, au contraire, est extrêmement raisonné. Et que c'est simplement la méthode en apparence irrationnelle d'association des idées et des images qui est utilisée comme telle. Mais qu'au contraire, tout ça est extrêmement construit, rien n'est gratuit tout à fait. Et que l'anarchisme, d'abord chez Buñuel, est absolument naturel. Bon. Et il s'appuie, bien évidemment.
Vous voulez dire inné, vous voulez dire.
Il est inné, il est tout à fait naturel, et c'est dans l'âge d'or précisément où il apparaît le plus naturellement du monde, contrairement aux associations provocatrices qu'on pouvait déjà encore trouver dans Le Chien andalou. Et c'est bien sûr qu'un anarchisme qui est par ailleurs basé sur quelques haines bigrement ancrées chez Buñuel, et qui sont la haine qu'il peut avoir de tout ce qui est potentiellement une entrave à la liberté, donc de l'Église, donc des fascistes, donc des gens qui ne sont tout simplement pas des démocrates.
Ou l'armée. Bon.
Ou l'armée, bien évidemment, enfin tout ce qui les symbolise, l'ordre, et, j'allais dire, la sécurité du monde, honneur, patrie, etc., et de ses fausses valeurs. Mais il n'utilise des méthodes en apparence irrationnelles pour qui ne saisit pas le fil de sa pensée, que précisément pour en avoir plus de force et avoir une plus grande marge de liberté d'écriture, mais pas autre chose. Et c'est sûr par ailleurs que le fait qu'il provienne d'Espagne le met à l'abri probablement d'une sorte de sentimentalisme qui aurait été peut-être le propre des Français. Chez lui, il n'y a pas de spleen, et ce que disait Patrice Gauthier me semble évident, et on le retrouvera dans tous les films de Buñuel. Buñuel, d'abord et avant tout, a horreur des sentiments mièvres et des images mièvres, du sentimentalisme tout court. Et c'est vrai qu'on le retrouve déjà. Buñuel est un homme qui vient de naître. Il est déjà un adulte, un artiste adulte à ce moment-là, quand il fait l'âge d'or, le plus naturellement du monde. Il n'aura plus qu'à aller puiser là-dedans, quel que soit le cadre dans lequel on va lui demander d'inscrire des films ultérieurement. Mais ils sont tous là déjà, potentiellement. En tout cas, tout.
Et ce qui est étonnant, c'est, vous avez dit le mot « écriture ». Parce que quand même, pour l'instant, on parle des thèmes, on parle des images chocs, on n'a pas abordé l'écriture cinématographique, parce que si ce film est aussi grand, c'est parce qu'il ne se contente pas de traiter des thèmes en les illustrant, mais avec les meilleures idées du monde, hein, celles qui nous satisferont complètement dans nos fantasmes de révolte, si l'on en a, c'est qu'il y a une écriture, on a fait quelque chose parfaite, aussi bien au niveau du son. Il faut quand même dire que le film 1930, c'est le deuxième film sonore, et que sur le son, c'est tout à fait étonnant ce qu'il arrive à faire, le son étant jamais en relation redondante avec l'image. Il y a des contrepoints, il y a des décalages, des éléments comme ça, et l'image. Et cette écriture, je crois que, par la suite, il ira toujours plus loin. Je voudrais dire une chose, c'est qu'on fait beaucoup allusion au dernier film de Buñuel depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'a été le plus grand reproche de la critique sur les derniers films de Buñuel? On a dit que c'était filmé comme du Gérard Oury ou du Verneuil. On a pu dire que c'était filmé vraiment n'importe comment. On a confondu simplicité, évidence et fluidité. On voulait absolument de nouveau les yeux, on disait, Buñuel fait les films, on veut les yeux qui pètent à coups de rasoir devant, on veut les fourmis qui mangent un serpent. Alors qu'en fait, non, la force de Buñuel, je crois, c'est que, même dans la bande-son, c'est que on ne fait pas n'importe quel chaos. C'est pas le chaos évident, comme fait un peu une avant-garde underground depuis des années, dans le son ou dans l'image, qui va être la vraie force provocatrice et le vrai vecteur de cette anarchie et cette révolte. Il sait qu'il faut une distance, je dirais même une tapisserie. Et à ce niveau-là, je crois que l'âge d'or, ce qui est étonnant, quand maintenant quelqu'un de jeune, moi j'ai fait l'expérience de présenter 2-3 fois en ciné-club devant des gens jeunes, ils sont très étonnés. Ils s'attendent à voir un film pire que les clips que l'on voit aujourd'hui en 1991. Ils s'attendent à voir du sang jaillir, c'est plus gore que gore, à gore et à clip. Et en fait, ils sont étonnés de voir l'apparente tenue et distance qu'a le film. Et ça, je crois que c'est la force exceptionnelle. Dans l'écriture fait que tout ce qu'on vient de dire fonctionne. Je crois qu'elle serait uniquement au niveau de la volonté et de choix moraux ou éthiques, ça ne serait pas aussi fort. C'est presque de l'académisme quand on le voit. Si on le voit à froid, c'est presque fait d'une manière académique. Patrice Gauthier.
À ce propos, je ne suis pas peut-être entièrement d'accord avec ce point de vue parce que il faut toujours se méfier du regard qu'on a quand même un certain nombre d'années après. Je pense quand même que là, les gens qui l'ont reçu en 30 et...
Non, je suis d'accord, je parle à l'époque, les gens qui le voient maintenant.
Mais j'ai dit les gens qui l'ont reçu en 30 l'ont quand même pris certainement avec la violence d'image, ils ont pris les choses à beaucoup plus, sans doute, beaucoup plus...
Ils l'ont pris au premier degré.
Et je pense que...
C'est plus ce qu'il y avait dans l'image, Patrice Gauthier. Oui. C'est plus comme, c'est pas comment les images étaient faites choquantes, c'est ce qu'il y avait dans l'image qui les choquait, c'était de voir une fenêtre cadrée comme dans n'importe quel film de l'époque, avec un évêque qu'on jetait par la fenêtre. C'était ça qui les choquait. Il n'y a aucun moment où l'image, la seule image véritablement truquée, entre guillemets, surréaliste du film, il n'y en a qu'une. C'est le moment où elle se regarde, on l'a entendu au début, dans le miroir, et qu'il y a les nuages et le vent qui passent. Tout le reste est filmé comme un documentaire. Et non pas ce qu'on appelle aujourd'hui, sur la provocation, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je pense que ce qu'ils ont pris dans la gueule, on peut dire ce mot très fort, c'est de voir brusquement qu'on venait ouvrir une porte de voiture et que c'était un truc catholique que l'on mettait. C'était de voir qu'un couple se traînait dans la boue pendant l'inauguration. C'était ce que l'image expliquait d'une situation. C'était pas un choc de l'image agressive en elle-même. Autant le chien d'Alou, la première image, est une agression totale. Hein, Noël Birch a écrit d'ailleurs des pages admirables là-dessus. La structure d'agression... Autant cette structure n'est pas d'agression. Et je crois que Buñuel trouve dans son écriture avec l'âge d'or, je suis vraiment d'accord avec Pierre Delot, le moment où l'agression se fait par une structure qui n'est pas directement, formellement, esthétiquement d'agression. Et que là, le sujet dans l'image devient 10 fois plus agressif que si on avait forcé le cadre à la présentation. Vous voyez, Patrice Gauthier, c'est ça que je crois qui est important.
Parce qu'il suffisait, en fait, de filmer d'une manière documentaire ce qu'il était impensable de montrer dans les autres films.
Voilà,
c'est tout, de s'en tenir au filmage documentaire de ce que tous les autres films ne pouvaient pas une seule seconde penser d'installer devant une caméra.
C'était le contraire du cinéma expérimental qui faisait Florès à l'époque. Et le seul cinéaste qu'il a vraiment compris, je crois, c'est Pasolini dans Salo.
Oui, d'ailleurs, quand j'ai revu le film, j'ai beaucoup pensé à Salo.
Parce que si je devais être méchant, mais c'est pas une méchanceté de dire ça, je dirais que le chien d'Alou, c'est le catalogue des plans de la provocation. Tandis que là, c'est la mise en narration des plans simplement qui vont être encore plus blessants et plus choquants. Et c'est pas par hasard que les gens qui étaient choqués effectivement par l'œil qu'on ouvrait dans un chien d'Alou n'ont pour autant pas interdit le film, tandis qu'ils vont interdire l'autre qui est beaucoup plus fort, effectivement, qui vont interdire l'âge d'or. Et à mon avis, aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, quand je vois le retour manque de tolérance et que je vois que Scorsese avait des ennuis pour un film somme toute anodin, que la Pasolini en a eu un temps quand il a fait son Golgotha, etc., je me dis, c'est curieux, mais si ce film-là, demain, était ressorti sur les grands écrans, il n'est pas impossible brusquement... qu'il ait la même force, n'était que les habits sont datés et qu'on peut toujours se réfugier dans la lipide histoire en disant mais ça c'était il y a 50 ans.
Vous avez raison à tel point que peut-être le malentendu qu'il y a eu à la ressortie officielle du film s'est fait en 81, en plein état de grâce de l'arrivée au pouvoir des socialistes, et que ça a été un peu à pétard mouillé, et qu'aujourd'hui dans la crise actuelle, je crois que le film ressortirait sur grand écran, je suis d'accord avec Pierre Rinaldo, je crois qu'il ferait mal, très mal, à beaucoup de gens, y compris de gens qui se croient de ce côté-là. Parce que ça, c'est l'autre force de Buñuel. Il n'a pas pu être récupéré vraiment par les surréalistes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il a la fibre, bien entendu, mais au niveau de leur dogme. Et personne n'a pu vraiment le récupérer. Il y a une anecdote célèbre, parce qu'il brouille les cartes. C'est quand il a dit, à la fin de ma vie, je ferai venir un prêtre. Au moment où je serai à deux doigts de mourir, je vais sortir tout le monde. Et personne ne saura quand le prêtre sortira de ma chambre si je me suis confessé ou si je vais cracher dans le visage. Et je crois que ça, c'est justement cette espèce de no man's land, cette espèce, disons, de tapisserie, de distance, qu'il sait faire. Parce que dans l'âge d'or, ce qui est étonnant, c'est les plans dont on se rappelle le plus sont les plans les plus, je dirais pas anodins, mais les plus simplement filmés, très frontal généralement. Il y a très peu de champ contre champ, très peu de mouvements de caméra, il y a très peu d'effets au niveau cinématographique. C'est d'une fluidité, d'une limpidité, et je dirais presque, c'est presque un fleuve, un lac à plat. Et simplement, le lac fait des figures, et dans ces figures, il y a des choses complètement effrayantes. Pierre-Henri Delot.
Oui, mais je dirais que Patrice Gauthier disait tout à l'heure qu'il refusait les sentiments mièvres. Il faut préciser, parce qu'on n'a pas abordé le terrain de la sexualité.
Bah, parlons de l'amour fou et de la sexualité.
Bah, précisément, et on y revient à l'amour fou, que soulignait comme point de départ vraiment d'abord du thème du film Michel Cazenave, c'est que Buñuel, lui, filme pas une histoire d'amour, un couple, un homme ou une femme qui tombe réellement amoureux. Il filme d'abord la pulsion amoureuse, la pulsion sexuelle qui fait que une femme rêve de du sexe de son futur amant et lui de la chair de sa future femme. Et c'est ça qu'il filme naturellement, et c'est bien ça qui est très terriblement gênant. Alors quand il traduit ça par des images avec une jeune femme en train de lécher le gros orteil d'une statue, ça devient, pour le bourgeois normal de l'époque, obscène. Justement. Et l'image, elle est pourtant extrêmement forte, parce que il va naturellement, directement, au fait et à la conclusion naturelle d'un couple. Il y a là-dessus nul sentimentalisme. La poésie, elle ressort de ça. C'est pas qu'on crée de la sauce autour.
Justement, on va écouter le passage dans le film où ils n'arrivent pas à faire l'amour dans le parc et que Tristan Iseut est complètement déréglé par le chef d'orchestre. Et ce qu'ils se disent, on va écouter ça maintenant, c'est un extrait de L'Âge d'or.
Allô ? Allô, c'est vous ? La patrie peut vous être reconnaissante, canaille. Vous êtes seul le responsable et l'assassin. Mais vous m'avez compromis aussi, misérable. On n'a pu sauver aucun enfant. Des vieillards honorables, des femmes innocentes ont péri.
C'est pour ça que tu me déranges ? Qu'il aille au diable, tes mômes.
Ruffian, canaille, ce n'est pas tout. Tu m'as entraîné avec toi, déshonoré avec toi, assassin.
Tu peux crever, je m'en contrefous.
Eh bien, écoute mes dernières paroles. Entends-tu, assassin ? Salaud !
Thank you. mon amour, mon amour, mon amour, mon amour.
Alors là, dans le film, il faut savoir que Gaston Modeau joue son rôle, mais que les phrases en voix off, comme on dit, n'ont pas été faites à ce moment-là. Et en fait, anecdotiquement, c'est intéressant, c'est la voix de Paul Éluard qui dit « Viens ici, l'oreiller est plus froid », des choses comme ça. Donc, exemple de Tristan et Iseult qui part dans tous les sens et on ne peut plus continuer à le jouer, eux qui n'arrivent pas à communiquer vraiment, mais que peut-être c'est, malgré la... À part le « nous avons tué nos enfants », le reste a l'air presque mièvre sur les phrases, mais en fait pas du tout, et peut-être que l'amour fou, c'est aussi ça. Et là, Patrice Gauthier voudrait intervenir.
Non, enfin, je voulais revenir un peu sur ce qu'avait dit Pierre-Henri Delot. En effet, sur la façon dont le désir, la passion est montré, qui est à ce moment-là assez nouveau et insupportable. C'est quand même la grande époque de « baisse un peu l'abat-jour » et choses de genre. Bon. Et là, il y a en effet un travail sur le son qui est... que le son va dans une direction différente aussi de l'image. Il y a cette baisse de choses, de rapport. Et au même moment, enfin, je parle de quelques années après, quand on revoit la copie non mutilée de l'Atalante, on voit aussi ce sur quoi les censures diverses, aussi bien du producteur, des distributeurs que des censurels, s'est attaqué aussi à des choses comme ça très très précises qui étaient comment passe le désir. Je pense par exemple à Dita Parlow qui se caresse en pensant à son marin loin, des choses qui étaient absolument nouvelles et tout à fait invraisemblables par rapport
au cinéma,
à ce qui avait été
au cinéma, vous voulez
au, au cinéma.
Oui. Parce que dans la vie, ça devait déjà exister.
Oui, mais enfin, la civilisation était... Enfin, bon, on ne va pas faire... Mais enfin, c'est une civilisation quand même.
Non, Patrick,
pas mal
j'insiste,
de mecs avec la civilisation que... du...
Non, on parle du cachet.
Du bordel,
non, j'insiste,
etc.
On parle du cachet. Mm-hmm. Je veux dire, c'est pas le problème de la sexualité telle qu'elle est qu'est le problème. C'est comment le tabou fait qu'on la cache et qu'on la dissimule.
Oui, oui.
L'instinct sexuel étant le même pour toute personne au départ. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est que pour la première fois, on montrait la part maudite que se cachait chacun devant les gens.
Pourquoi maudite?
La part maudite que se cachait chacun au sens de la terminologie, eux la disaient maudite au niveau chrétien.
Mais non, c'est la plus délicieuse du monde.
Oui, mais ça, c'est votre quotidien, Pierre-Henri Delot. Bon, je sais pas, Jean-Claude Biette qui rit beaucoup, là.
Oui, non, je pense au jeu de mots, parce qu'il y a quand même une dimension chez les surréalistes et chez des gens qui viennent de la culture freudienne. Je pense qu'on peut aussi lire l'âge d'or comme « là, je dors ». C'est ce que pourrait dire la vache sur le lit.
Là, je dors.
Là, je dors. Je pense que et en fait il cherche une place pour faire l'amour et bon et aussi pour dormir parce que Tristan et Iseult c'est ça aussi c'est le sommeil et la mort
et donc, il faut foutre Lacan et d'accord
non mais c'est tellement vrai c'est qu'il y a un moment dans le film où, qui est superbe c'est que il demande qu'est-ce qui se passe tu as froid non je tombais. Et je tombais, on voit, elle est en train de dormir. C'est cette idée que Freud a relayée et relatée par rapport à la sexualité. C'est tomber dans un trou quand on dort. Bon. Et là, justement, cette séquence qui a fait vraiment, beaucoup de gens ont dit c'est n'importe quoi. Elle a été attaquée d'abord, non pas pour ce qu'elle montrait, parce que c'est assez, à part le plan, c'était bien de l'eau de la dame suçant avec avidité l'orteil d'une statue, qui est d'ailleurs une statue de femme. Et puis le plan où nous avons tous nos enfants et on voit le visage de Quasimodo plein de sang, mon amour, mon amour. En dehors de ces deux plans-là, le reste est tout à fait simple. Et en fait, c'était rejeté d'abord pour imbécilité. Les gens disaient, qu'est-ce que c'est idiot, cette musique qui marche pas et tout. Mais en fait, ils se raccrochaient à l'idée que c'était idiot, parce que profondément, ça touchait très précisément, je pense, moi, l'un des éléments forts de l'amour fou. L'amour fou, ça n'est pas courir après une femme et la prendre comme une bête, Pierre et Delot, je ne sais pas, à votre avis.
Non, mais c'était une image qui touchait l'inconscient refoulé, l'inconscient collectif de la société, c'est-à-dire ce qu'on ne voulait pas, en tout cas, montrer aux enfants d'abord, et qu'on ne voulait pas laisser paraître, parce qu'une société perdait ses symboles et ce sur quoi elle reposait. C'est tout bête, et d'emblée, il met le doigt dessus.
Gilles Casnard.
Oui, moi, je sais pas. Là, je crois que... Et à nouveau, parce que Buñuel en fait tellement usage, j'aimerais bien remonter à à l'archétype, si on peut dire, de l'amour fou, c'est-à-dire Tristan et Iseult. Et je dis ça parce que dans l'imaginaire que nous en avons aujourd'hui et tel que on l'a déformé à travers les siècles, on oublie que Tristan et Iseult ne pense qu'à une chose, c'est à faire l'amour tout le temps. Ce sont de véritables obsédés sexuels dans les textes du Moyen Âge. Bon, si on a essayé d'obturer la légende, c'est bien à cause de ça. Et pourquoi ? Parce que il nous était merveilleusement bien montré qu'une sexualité libre, c'est ce qui fait que ne peut plus exister de structure sociale.
Évidemment.
Nous sommes effectivement dans l'anarchie complète.
C'est l'acte politique révolutionnaire.
Alors, ce qui, justement, je crois, a fait absolument scandale, même si les gens, en réalité, ont pris des motifs plus ou moins religieux, plus ou moins politiques, etc., c'est que la question que posait Buñuel, c'était celle même de la désorganisation de la société.
Évidemment.
Et par la libération de la force fondamentale qui existe en tout homme et toute femme.
À tel point donc, le film est le spectacle d'une désorganisation permanente auquel la bourgeoisie résiste jusqu'au bout.
Mais je ne dirais même pas la bourgeoisie, je dirais qu'on serait... Enfin, si, c'est la bourgeoisie, non, mais historiquement, nous sommes par rapport à la bourgeoisie.
Je parle dans le film, on voit la réception, un
oui, non, mais ce que je veux dire,
avec des gens,
ce que je veux dire,
il y a
c'est
le
que...
feu, il y a tout, et ça, ils acceptent.
Non, je comprends bien, Noël. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse en même temps dans le film, c'est de la façon dont on peut le lire, je dirais, maintenant que nous sommes sortis de l'époque dans laquelle il a été fait, et tel que, éventuellement, pourraient le voir encore des gens dans 150 ans, dans 200 ans, alors même que nous aurions changé de société. Et je pense que sa force serait toujours aussi forte et aussi subversive. Parce que c'est toute société, de quelque façon qu'elle soit structurée, qui est mise en cause.
Absolument. Là-dessus, je rejoins totalement Monsieur Cazeneuve, parce que là-dessus, c'est évident. Quels sont les contes les plus révolutionnaires ? Ce sont les contes de fées. Regardez, les contes de fées, c'est toujours un prince qui va tomber amoureux d'une bergère et va l'épouser.
Comme tu disais, c'est le roman érotique des enfants.
C'est exactement ce qu'on a déjà dit. C'est pour ça que c'est un conte de fées.
Les hiérarchies n'existent
pas. Or, lui, comme il filme les pulsions, voilà brusquement qu'une pulsion peut arriver, une pulsion amoureuse, bien sûr, qui va déranger l'ordre social, parce que une grande bourgeoise peut tomber amoureuse du garde-chasse, et là, ça va plus du tout, là, l'ordre social n'est plus établi, et il est resté sulfureux tout le restant de ses jours, et ces bourgeoises, quand il en présentait dans les films ultérieurs, eh ben, elles s'échappaient pour aller, comme Catherine Deneuve, retrouver certains objets que lui donnaient certains japonais ou chinois, et tout ça, chamboulait tout, ça ne va pas du tout.
Oui, mais attention, dans l'âge d'or, il y a le moment où le chef d'orchestre arrive, embrasse sur la bouche le passage de la femme, que l'homme se révolte, jette tout ce qui lui passe par les mains, la société et tout, par la fenêtre. Et si c'était que ça, bon, eh bien, ça serait la déception amoureuse de l'amour fou trahi par le fait social ou par plus de perversité où il ne voudrait pas en voir. Seulement, on a le final. Je pense qu'il faut quand même parler sur le plan, si on veut lier amour fou et politique, donc révolte du film et rejoint le surréalisme, parce que c'est quand même ça, oui. Il faut parler de la fin, qui est l'allusion au Marquis de Sade, et au Sommet de Journée de Sodome et Gomorrhe. Et par hasard, on rejoint Salo de Pasolini, d'ailleurs. Et je crois que le final, avec les tambours de Calanda, qui on jette tout par la fenêtre, mais après, on voit les quatre pervers, entre guillemets, mot pervers, je trouve c'est des gens très bien, qui sortent de ce château, et une femme arrive qui n'est pas morte complètement, le Christ, en apparence, retourne, décrivant la scène, retourne à l'intérieur, on reste dessus, on entend un cri, il ressort, et la femme n'est plus là, mais lui n'a plus de barbe. Le Christ n'a plus de barbe, et on voit un crucifix où il y a des chevelures de femme et une barbe. Là, c'est une fin qui justement dit que l'amour fou, la politique, attention, faut aller jusqu'au bout du principe. Le principe étant l'absolu, et pas forcément dans le couple. Ça, je crois que c'est... Il ne faut pas oublier ce détail. Patrice Gauthier, qui est perplexe.
Oui, oui, oui. La femme m'a paru toujours assez mystérieuse, et elle me paraît, telle que vous l'avez dite, un peu trop rationnelle, mais... J'ai jamais bien compris la fin de l'âge d'or.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Et pour moi, c'est une fin ouverte, très énigmatique, qui est une sorte d'embrouillamini de fils donné comme tel, qui ne demande pas d'éclaircissement. Je pense que ça fait partie du projet global et inné de Buñuel, qui est... De créer la fusion entre l'anarchisme absolu et un réalisme idéal.
Oui, je pense aussi profondément. Il n'y a pas là-dessus d'attaque politique plus précise, parce qu'il pourrait, s'il y avait des attaques politiques, s'adresser à n'importe quel régime, n'importe quelle société, socialiste ou capitaliste, pour caricaturer. Son problème, son propos, il n'est pas là. Et on en revient à la force brute de l'amour fou tout court, que soulignait Monsieur Cazeneuve, qui est tout simplement que il n'est pas gendarmable, il n'est pas catalogable, il ne peut pas s'inscrire où que ce soit, dans quelque société que ce soit, parce que celle-ci est riche des règles, et par définition, l'amour fou échappe à toute règle, sinon qu'à celle de sa passion.
Michel Cazeneuve ?
Oui, là, évidemment, moi, je vais me permettre quelque chose de tout à fait bizarre, c'est de trouver que Buñuel, d'une certaine manière, se montre extraordinairement gnostique. Et je veux dire par là que je pense toujours à ce mythologème gnostique suivant lequel le monde est la création d'un cheveu de Dieu que Dieu a perdu au bordel. Or, je me demande quand même si dans cette image, qu'il le sache ou pas d'ailleurs, ça ne me pose pas de question, mais qu'il le sache ou pas, Buñuel ne retrouve pas quelque chose de cet ordre-là. À savoir que, d'une certaine façon, ce n'est même pas la société qui est mauvaise, c'est le monde même, tel qu'il existe, qui est mauvais, et que l'amour fou, avec sa composante totale, c'est-à-dire effectivement toute la plénitude du désir sexuel qui est dedans, remet en cause cet ordre même du monde. Et que d'une certaine façon, c'est le désordre qui doit être établi de façon que chacun puisse vivre dans son absolu personnel. Et en même temps, c'est justement la remise en cause de tous les dérivatifs qu'a essayé de mettre en place la société. Je parlais tout à l'heure de l'amour courtois. Et bien justement, l'amour courtois, par exemple, est la plus belle tentative du christianisme d'essayer de domestiquer cet amour fou et brutal pour essayer de mettre en place des contraintes sociales de ce qui devait les faire sauter. Or, le final, là-dessus, me semble aller jusqu'au bout de la démarche.
Le Christ sexualisé.
Le Christ sexualisé, et je dirais le Christ ramené, dans une vue gnostique, à sa véritable nature, c'est-à-dire celui qui vit l'amour, les gnostiques le disaient bien, vit l'amour jusque dans le bordel même.
Alors, pour conclure, ce que disait André Breton du contexte surréaliste au moment de l'âge d'or.
Le surréalisme, à cette époque, me fait l'effet d'un navire superbe et dématé, qui pourrait d'un instant à l'autre aussi bien aller par le fond qu'aborder triomphalement une terre où l'on connaisse enfin la vraie vie dont parle Rimbaud. La tempête l'environne, mais elle est aussi en lui. Il est tout à fait hors des circuits dans lesquels jusqu'à lui a pu se chercher l'aventure. La vie de ceux qui y participent est passionnante, mais terriblement exposé. Les ponts sont alors coupés, aussi bien avec le monde littéraire qu'avec le conformisme policé, quelque forme insidieuse qu'il puisse prendre. Rien ne rend mieux compte de cette disposition d'esprit qu'un film comme L'Âge d'or, de Buñuel et Dalí, qu'on peut revoir aujourd'hui dans les ciné-clubs, ne serait-ce que pour s'assurer qu'il n'a rien perdu de sa virulence. Qu'y a-t-il de respecté, là, si ce n'est, comme toujours, l'amour sous son angle le plus charnel, la liberté prônée jusqu'au délire, et, dans le cadre d'une morale sans obligation ni sanction, le culte de ce qui peut entrer de pathétique dans certains instants de la vie. Je revois encore, c'était le matin du 4 décembre 1930, le studio 28 où passait l'âge d'or. Dans l'état où les manifestants de la veille au soir l'avaient laissé, l'écran souillé de taches d'encre, les fauteuils rageusement brisés, les tableaux surréalistes dont une exposition avait lieu dans la salle d'entrée, un à un lacérés à coups de couteau. Ces exploits étaient le fait de deux associations qui se proclamaient la Ligue des Patriotes et la Ligue anti-juive. On pouvait mesurer là des visus, la profondeur d'abîme qui nous séparait des bien-pensants du prétendu tel.
En fait, en écoutant le texte de Breton, on peut se dire que c'est peut-être une des seules fois dans l'histoire du cinéma où un film qui s'est fait massacrer par un public contestataire l'a été pour des bonnes raisons, et non pas comme prétexte. Pour des bonnes raisons pour ceux qui massacraient, j'entends. C'est que là, la gifle et le crachat étaient tels contre ceux-là que la réaction a été immédiate.
Oui, ce qui m'interroge le plus quand j'entends Breton dire ça, c'est pourquoi déjà la Ligue anti-juive par rapport au film de Buñuel.
La Ligue anti-juive était extrêmement... à l'époque, il faut quand même dire qu'elle était très présente auprès des organisations d'extrême droite et patriotiques.
Oui, j'entends bien, mais enfin, je veux dire, la Ligue des Patriotes, ça je comprends. Mais j'aurais J'aurais mieux vu les enfants de Marie aller lacérer.
Pierre-Henri Delos, je ne vais pas faire le cuit, je vais vous donner un petit cours d'histoire très rapide, parce que je peux le faire, parce que Buñuel lui-même, dans le chapitre, dans son autobiographie qui précède le passage sur le surréalisme, ça s'appelle « Nous les métèques ». C'est-à-dire qu'à l'époque, il est évident qu'il faut savoir qu'à la fin des années 20, le franc était très très bas, et que les gens qui venaient de partout voyager étaient traités de métèques, juifs métèques, le terme était toujours réuni, et bien sûr, ils pouvaient se payer une bouteille de champagne pour une pesette. Et ils étaient haïs des gens sur avoir ce pouvoir. Se jouait par la suite, et vraiment dans les années 30, l'antisémitisme sur ces gens qui viennent manger notre pain, être riches. Après, ça s'est lié à tous les gens qui venaient réclamer du travail, qui venaient contre le fascisme et tout. Mais l'antisémitisme n'est pas né avec Hitler. Il faut quand même se rappeler des textes de certaines personnes, dont j'ai même pas envie de dire le nom, qui ont fait des ouvrages extrêmement odieux.
Ah non, mais ça, là-dessus, on est bien d'accord.
Et il y avait la trilogie Le Sabre, Le Goupillon, L'État.
Avec l'Église catholique. Là,
le Sabre, Le Goupillon, L'État, qui était bien contre les métèques, les anarchistes et les juifs. C'était très clair. Et c'est normal qu'ils se trouvaient côte à côte. Mais de toute façon, maintenant, vous savez, ils se trouvent assez côte à côte pour d'autres choses. Je pense que les temps n'ont pas, hélas, tellement changé.
Ce qui me plus, c'est qu'ils se soient mobilisés précisément sur un film comme celui-là, alors que je voyais plutôt le corps établi de la nation, bon chic, bon genre, aller choquer, aller demain dénaturer les tableaux surréalistes, plutôt que déjà... J'allais dire l'extrême droite française qui a toujours été pratiquement traditionnellement antisémite, ça on le sait, c'est pas le problème. Mais en quoi d'ailleurs, ce qui prouve que la force d'interpellation du film de Buñuel est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut penser, parce que
elle
dépasse uniquement les canevas de la société française traditionnelle proprement dite, et elle s'adresse à un inconscient bien plus vaste, et la preuve...
qui est transhistorique, on peut dire.
Voilà.
Francis Gauthier.
Ben oui, enfin, je veux dire, j'ai eu deux choses à dire de plus à ce propos. C'est-à-dire, oui, de toute façon, les surréalistes, quand même, sont aussi liés à ce moment-là au Parti communiste, prennent des positions par rapport au fascisme.
Donc, c'est avant les procès de Moscou.
Se retrouvent, oui, bien sûr, enfin, c'est en 30, comment. C'est le moment où les surréalistes sont le plus proches. Des communistes, il y a donc toute la tradition anti-militariste, anti-cléricale, et aussi, enfin, de anti-colonialiste, puisque c'est le moment où ils protestent contre l'exposition coloniale.
Et c'est aussi l'époque.
Donc oui. tout ce qui est contre. Quelle que soit l'étiquette a débarqué, c'était des groupes.
Il y a un autre détail, Patrice Gauthier, c'est le moment où les surréalistes, une partie surréaliste se met à défendre Trotsky, qui vient d'être chassé par Staline, et Trotsky, Bronstein, le juif. Ne pas oublier ça. Et que les textes anticommunistes se lient de juiverie, d'anti-juiverie, comme ils écrivent, la juiverie communiste, même dissidente, et que Trotsky est autant attaqué comme ancien chef de l'armée rouge que juif. Et qu'on sait très très bien que dès 28-29, le camp est très clair, les surréalistes sont du côté de Trotsky. Et que cela, c'est pour eux, c'est l'ennemi. En plus, Trotsky va arriver en France quelques temps après. Bon, et puis, les émeutes de l'âge d'or, il faut bien dire une chose, ça préfigure celle de 34. Il ne faut pas se tromper. C'est une répétition générale. Jean-Claude Biette.
J'ai envie de revenir à une chose sur l'anarchie. Parce que on parle de l'anarchie comme mouvement politique, mais je crois qu'il y a... L'anarchie, c'est un principe de vie, et je pense que l'esthétique de Buñuel, son côté documentariste, rendre compte de la réalité est anarchique.
Forcément.
Donc, à partir du moment où on fait un film qui essaye de tenir compte des différents degrés de réalité, tels que, justement, les surréalistes ou le freudisme ont pu arriver à le suggérer, on arrive... fatalement à cette vision typique de Buñuel, qui est de rendre compte des réalités mentales et des réalités physiques.
Vous parlez du documentaire, mais à la fin du
siècle... Et l'idée d'association, le principe qui est toujours resté dans les films de Buñuel, c'est le principe des enchaînements libres qui sont à la fois très rigoureux et très mystérieux et qui sont la signature même du cinéma de Buñuel.
C'est son style.
C'est son style, oui.
Mais si vous parlez de documentaire, ce qui est important aussi, c'est que cette volonté documentaire toujours impliquée dans le cinéma de Buñuel, c'est un hommage à la nature dans son anarchie. Et il faut bien se souvenir que les écrivains très conservateurs de la fin du siècle dernier avaient, comme oriflamme, la nature est l'ennemi de l'homme, la nature est l'ennemi de l'art, ce refus complet, je pense à Barbey d'Aurevilly. Bon, et c'est évident que revenir à la nature, à l'époque où le cinéma, justement, c'était la fiction totale d'essence théâtrale ou opéra, c'était un choc complet. Et c'est un des films, d'ailleurs, qui a été tourné en partie en studio, mais énormément dans la rue.
C'est pour ça que Buñuel a fait, c'est un film qu'on oublie un peu, mais Robinson Crusoe.
Robinson Crusoe, qui est un hymne à l'anarchie de la nature, oui. Michel Cazenave.
Oui, si vous voulez, moi je voudrais revenir, parce que ça permet peut-être de comprendre un certain nombre de choses, de revenir à la façon dont a été reçu, d'une part, Le Chien Andalou, d'autre part, L'Âge d'Or. Je veux dire que Le Chien Andalou, effectivement, tout le public de droite, en quelque sorte, l'a rejeté, sauf ce qu'il a été un peu convenu d'appeler le milieu parisien. C'est le milieu intellectuel, le libéral, etc., qui, au contraire, a eu un certain snobisme à pousser des cris de ravissement devant Le Chien Andalou. Grâce à quoi, d'ailleurs, le producteur de L'Âge d'Or, c'est effectivement le vicomte de Noailles.
Qui déchirait les tickets à l'entrée du Chien Andalou, très content, disant merci d'être venu chez
moi. Oui, exactement. Oui. Mais alors, simplement, le malheureux vicomte de Noailles, il a fait confiance à Buñuel, donc il ne savait absolument pas ce qu'il y avait dans le film. Et on sait que lorsque le film a été présenté la première fois, non pas au studio 28, mais en projection tout à fait privée, le vicomte de Noailles a fait une grande réception du tout Paris intellectuel et libéral, justement, je dirais de gauche modérée, comme on dit.
Pour le cultiver, disons.
Et quand le public a découvert ce film, il y a eu un silence absolument glacial pendant toute la projection. Et ensuite, tout le monde est parti sans rien dire. Le vicomte de Noailles est parti, si je m'excuse, mauvais de jeu de mots, la queue entre les jambes. Mmh. Parce que tout à coup, ils ont découvert ces gens qui avaient affecté d'aimer Le Chien Andalou, ils ont découvert ce qu'était le vrai Buñuel.
Oui, ce qui est formidable, Michel, je vous interromps, c'est que Noailles a refusé de détruire le négatif.
Ah ben, non,
il lui a demandé, il a refusé.
Là, il faut admettre qu'il y avait quand même une certaine noblesse du geste.
Il a permis à Henri Langlois d'avoir des copies rentrées à la Cinémathèque. Et il a toujours dit que Buñuel est resté l'auteur et tout. Et il a été très respectueux par rapport à cette commande.
Comme quoi, les délires et l'écriture automatique des rêves de Dali est bien moins sulfureuse que la thématique
Et c'est pour ça qu'on retrouve quelque chose qui est dans la polémique du présent, d'aujourd'hui, c'est que, comme disait Pierre-Henri Delot, le Chien Andalou, c'est un scénario tourné en audiovisuel. Mmh. Et L'Âge d'Or, c'est un film. Mmh. Et c'est ça, c'est-à-dire, il n'y a rien de plus que l'enregistrement conceptuel.
Oui, mais enfin,
qui est très fort.
Le Chien Andalou, c'est quand même très beau. Hein.
Oui, faut pas non plus. Mais enfin, c'est loin de L'Âge d'Or.
Faut pas jeter le chien pour garder l'âge. Hein.
Bon. Non.
Non.
Je ne jette pas le chien.
Mais parlons de Dali une seconde avant de conclure l'émission, parce que Dali écrit dans un des nombreux livres qu'il a fait faire ou qu'il a fait, il dit beaucoup de mal de Buñuel sur la trahison totale de L'Âge d'Or, et il lui reproche en plus, en truquant les dates complètement, que le jour de la première, il était parti à Hollywood, alors qu'eux étaient là exposés. Bon, il oublie un détail, c'est que Buñuel avait dans l'esprit une rage contre le fait qu'on puisse ne pas comprendre ce qu'il voulait faire, il acceptait qu'on l'attaque. Et l'anecdote est justement la première projection du Chien Andalou au studio 28, où il était venu avec des cailloux dans sa poche. Il était derrière l'écran et il attendait la fin de la projection, parce que si le film était sifflé, il jetterait les cailloux sur les gens. Et les gens ont applaudi et il a laissé les cailloux tomber de sa poche. Il n'était pas là le soir de L'Âge d'Or où il y a eu l'incident, mais je crois qu'à ce moment-là, je pense qu'il aurait été triste, mais peut-être assez content de voir le résultat, malgré l'étoile de certains de ses amis qui étaient défigurés. Parce qu'en fait, il avait, disons-le, maintenant je ne sais pas, on en parle d'une manière telle que c'est un film moderne, hein, bon, mais en 1930, quand le film sort, ce qui se passe, Buñuel a réussi son coup. Ça, on ne peut pas dire le contraire.
Non seulement il a réussi son coup, mais je dirais, et moi je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui sont écrites sur L'Âge d'Or, qui par exemple s'indignent sur la réaction des ligues d'extrême droite, etc. Moi je trouve qu'il n'y a pas à s'indigner. Ça fait partie du combat normal, et les ligues, d'une certaine manière, avaient très bien compris ce qu'il y avait dans L'Âge d'Or. Et si elles se sont rendues comme elles l'ont fait, c'est parce qu'elles ont bien compris justement ce qu'il
y a. Non, il n'y a pas eu une communication.
Non, pas du tout. Ils se sont parfaitement compris.
En aviateur, on dirait, ils ont reçu 10 sur 10.
Oui, et d'une certaine manière, je trouve que c'était un peu prémonitoire de ce qui allait se passer en Espagne quelques années plus tard.
C'était L'Âge d'or, une émission de Noël Simsolo réalisée par Michel Prudhon, avec Jean-Claude Biette, Michel Cazenave, Pierre-Henri Delot et Patrice Gauthier. Archive INA, avec la voix de Gaston Modeau et d'André Breton. Texte du programme du Sur 28, lu par Sonia Emmanuel. Équipe technique, Alain Joubert et Jean-François Néolier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 septembre 1991. Thank you.